Radio Cité Genève. L'œil du commissaire-priseur, Viviane Juteau.
Bonjour, vous êtes sur Radio Cité Genève 92.2 dans l'œil du commissaire-priseur. Aujourd'hui, je reçois Elena Zanelli. Bonjour Elena.
Bonjour Viviane.
Elena, tu as de multiples casquettes, on va le voir tout au cours de l'émission. Tu es surtout conseiller en communication, créateur, et c'est surtout créateur graphique. On va parler de ça tout à l'heure, mais avant ça, je vais te demander la question rituelle dans notre émission. Quelle petite fille étais-tu ?
J'étais une petite fille très secrète, très solitaire, et j'explorais le monde imaginaire et réel tout le temps.
Tu es née où ? Raconte-nous ça.
Je suis née à Chypre, sur l'île de Chypre, et je suis partie.
Alors tu es partie où ? Parce que tu as un périple absolument extraordinaire. Tu es donc effectivement suisse et chypriote, ce qui est assez rare déjà. J'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de doubles nationaux comme ça.
Deux îles,
absolument. Et tout ça, ça t'a amené en plusieurs endroits, puisque tu as été à Curaçao, sur une île, là encore.
Encore une île, oui.
Encore une île. Alors, raconte-nous tout ça.
Mon père était hôtelier, donc il est resté hôtelier dans l'âme, donc il était hôtelier. Et on voyageait beaucoup. C'était la grande époque de l'hôtellerie, des chaînes d'hôtellerie. Comme les diplomates, on changeait de pays tous les 2 ans, 6 mois, 3 ans.
Ça donc, ils prenaient la direction d'un hôtel et...
Voilà, et on suivait.
Et on suivait. Toute donc, la famille suivait.
Voilà, les chats et la famille.
Les chats. Il y avait des chats ?
Il y avait des chats.
D'accord. Et alors, tu es allée en plusieurs endroits ? Raconte-nous ça, alors.
Alors, nous avons...
Donc, Curaçao, c'est une petite île hollandaise, hein, des Caraïbes.
C'est une petite île hollandaise. Ça. Avant ça, nous avons été au Liban. Donc, j'étais toute petite. Et puis après, on a été à Curaçao. Ensuite, on a été à l'île Saint-Domingue d'abord et après à Curaçao, donc les Caraïbes.
Ensuite, ça, c'était agréable quand même, la chaleur.
C'était très agréable. Pour les enfants, c'était merveilleux parce qu'on était
plage.
À la plage, toujours le soleil, toujours...
Une jolie vie.
Une jolie vie. Ensuite, je suis restée 2 ans en Suisse pour quand même apprendre le français... Et ma mère est suissesse, donc il fallait quand même un petit lien au pays.
Donc tu parlais français à la maison ou espagnol ?
On parlait français la maison, oui. Mais j'avais toujours les langues du pays avec...
Donc tu parlais espagnol, en gros.
Espagnol, hollandais, anglais, toutes les langues. Ensuite, nous avons été en Équateur, ensuite aux Philippines et à Paris.
Alors à Paris, tout à coup, plus de soleil, des gens un peu arrogants quand même, les Parisiens souvent.
C'était le choc.
Le choc de culture.
Le choc culturel. Je comprends ce qui arrive aux émigrés quand ils arrivent ici, c'était terrible. Passer du soleil à la grisaille, c'était quelque chose qui m'a beaucoup marquée. Mais dans le bon sens aussi, parce que j'ai découvert l'art, j'ai commencé à écrire et à dessiner, donc...
Tu avais quel âge quand tu es arrivée à Paris ?
J'avais 16 ans.
16 ans ? Alors tu es allée au lycée ?
J'étais au lycée français, oui, comme tout le monde. Mais pour la première fois de ma vie.
Et là, tu as réussi à te faire des copains, des amis ? Ou est-ce que les gens te regardaient comme quelqu'un de très exotique ?
Alors, partout où j'allais, on me regardait comme un être exotique. Mais je m'intégrais très vite, parce que ça dépend, c'était la survie, c'était de s'intégrer.
Bien sûr.
Et surtout dans une classe d'enfants.
Est-ce que tu as gardé des amis de cette période parisienne ?
Partout. J'ai gardé partout des amis. J'avais toujours une meilleure amie et on a gardé des contacts tout le long.
Ça, c'est joli. Alors, tu vas donc au lycée. Donc, tes parents aussi s'habituent à une nouvelle vie ?
Oui. Mais eux, mon père travaillait. Donc, pour lui, c'était son environnement de travail. Ma mère, elle était toujours très sportive. Donc, elle continuait le sport. Pour mon frère et moi, c'était plus difficile parce qu'il fallait s'intégrer dans une classe tout seul. Et là, c'était vraiment beaucoup de courage au début.
C'est vrai ?
Oui.
Oui, alors les Parisiens sont assez, on l'a dit tout à l'heure, un peu arrogants, un peu méfiants vis-à-vis des étrangers.
Méfiants et très... je ne comprenais pas l'état d'esprit européen, puisque j'avais toujours été dans les pays chauds ou... Même la foule parisienne me semblait agressive, alors que la foule aux Philippines n'est pas du tout agressive.
Elle est bon enfant.
Oui, c'est bon enfant, c'est chaleureux. À Curaçao aussi, je n'ai jamais senti oppressée par la foule, mais à Paris, oui.
Alors, ta découverte de l'art, ça s'est fait comment ?
Alors, la découverte de l'art, c'était au bout de 6 mois où je me morfondais à Paris, que je me disais que je n'allais pas pouvoir m'intégrer ici. Je me suis inscrite avec mon frère à des guides visités du Louvre. des visites guidées. Et petit à petit, on a commencé à découvrir les musées. Et on a adoré ça.
Ça a été un... Alors là, ça a été un choc dans le bon sens.
Dans le bon sens. Et qu'il y avait toute cette... Il n'y avait plus le soleil, mais il y avait toute cette création, ces civilisations. Ça, on n'avait pas dans les pays chauds des musées comme ça. Donc on pouvait pas... On avait des livres, mais c'est tout. Et là, je découvrais ces objets.
Alors le Louvre, c'est un univers immense. Qu'est-ce que tu as aimé au Louvre dans cette période-là, à cet âge-là?
À cet âge-là, toutes les périodes d'Antiquité.
Toute l'Antiquité.
Et même ben, aussi les premiers, le néolithique, les premières statuettes. Enfin, tout était... on a fait tous les musées avec mon frère. On a fait le musée de la marine, le musée d'art oriental. On a tout fait.
Alors ça
même le carnavalet.
Même le carnavalet, c'est l'histoire de Paris. C'est
oui,
formidable, ça.
C'était fabuleux.
C'est plus accessible, ouais, peut-être, que ouais, l'Antiquité, les Antiquités au Louvre.
Mais pour moi, c'était tout étranger. C'était complètement nouveau.
Et alors là, c'était la découverte de tout ça.
C'est la découverte. C'est là que j'ai commencé à dessiner.
On va écouter un peu de musique, si tu veux
bien.
Voilà,
merci.
Cité Genève, Viviane Juteau. L'œil du commissaire-priseur.
Vous êtes sur Radio Cité Genève 92.2 dans l'œil du commissaire-priseur avec Elena Zanelli, dont nous avons vu qu'elle était à la fois suisse et chypriote avec une enfance exotique très colorée, beaucoup d'étapes dans des pays chauds et ensoleillés, et puis une arrivée à Paris qui l'amène vers l'art à travers les musées. Alors, explique-nous aussi ce que tu as retenu de cette période-là, Elena, c'est-à-dire tu as probablement choisi quelque chose déjà dans cette période-là, dans ta tête.
Oui, c'est à cette période-là que je me suis vraiment sensibilisée à l'art, aux formes, à la beauté. Vraiment, la beauté m'a beaucoup aidée à surmonter cette grisaille. C'est incroyable que ça m'a menée aux Beaux-Arts, en fait, parce que j'ai choisi après de faire l'école des Beaux-Arts par la suite pour être graphiste. Donc, tout était lié à ça.
Donc, c'est cette rencontre avec les musées parisiens qui, au fond, a décidé de ta future carrière.
Voilà, exactement.
Puisque je rappelle que tu es conseiller en communication, création et exécution graphique. On va le voir, on va voir comment tout ça est arrivé. Alors, après Paris, qu'est-ce qui se passe?
Alors, après Paris, donc, j'ai passé mon bac...
Français.
Philosophie et langue, oui. Je ne pouvais pas faire autre chose parce que je n'avais pas eu le parcours des Français. Et puis, après le bac, j'ai postulé, donc j'ai passé le concours pour entrer à l'école des Beaux-Arts de Lausanne.
Là, tu retournais dans le pays de ta maman.
Je retournais dans le pays de ma maman, il y avait ma grand-mère, donc c'était normal de revenir. Enfin, je n'avais jamais été, donc un court moment. Et puis...
Alors, ta découverte de Lausanne, après avoir fait la découverte de Paris.
Alors, Lausanne, je connaissais bien, parce qu'on allait toujours passer des vacances de tous les pays du monde. On retournait toujours à Lausanne. Et puis, c'était familier. Je connaissais... Là, je me suis fait beaucoup d'amis. Cette école, elle a duré quand même 5 ans. Donc,
cette école que tu as faite, c'était ce qui est aujourd'hui, s'appelle l'ECAL.
C'était l'ancien, c'était ECBA, École cantonale d'art et d'art appliqué.
Voilà, donc qui durait 5 ans, qui dure toujours 5 ans.
Maintenant, il y a plusieurs modules, donc c'est pas du tout la même chose. Il n'y avait pas l'ordinateur à l'époque non plus, donc c'était un autre apprentissage.
Alors, qu'est-ce qu'on apprenait dans l'ECAL de cette époque-là?
Alors, on apprenait surtout à dessiner.
À dessiner au crayon,
à la gouache, dessiner des objets, puisque le graphiste doit faire des objets. On apprenait à dessiner des polices de caractère, on apprenait les couleurs, la gravure, on apprenait toute la gamme des beaux-arts.
Gravure, toutes les gravures, parce que la gravure, c'est un immense monde aussi, des techniques très différentes.
La gravure sur lino, sur cuivre, sur l'eau forte, on apprenait toutes ces techniques.
L'eau forte, peut-être faut-il expliquer à nos auditeurs, parce que c'est très beau, c'est un médium magnifique.
Oui, c'est sur une plaque de métal aussi, mais c'est gravé avec des acides. Donc, on dessine, on reproduit des modèles, mais on grave, mais c'est beaucoup plus léger. Et c'est l'acide qui creuse. Alors qu'avec le cuivre, le burin, c'est nous qui creusons le sillon.
Et il faut dire que le dessin se fait à l'envers.
Voilà, le dessin se fait à l'envers et après on le
retire. C'est d'autant plus difficile d'imaginer ce qu'il donne à l'endroit. Fois que l'encre la couleur a été mise dans les sillons creusés.
Voilà. C'était une recherche avec la matière, un combat avec la matière que j'ai beaucoup aimé.
Tu as été heureuse pendant ces 5 ans dans ce qui était donc l'école devenue l'ECAL.
Oui, mais là aussi, j'ai dû m'adapter très, très vite parce que à la fin de... J'avais pas du tout la gamme des couleurs suisses, donc de l'école de Bâle.
Qu'est-ce que c'est la gamme des couleurs
suisses?
Moi,
dans ma tête, j'avais les couleurs du carnaval de Rio. J'avais les
antilles, le rouge, le vert, le jaune.
C'était tout multicolore, criard, etc. Et en fait, tout le monde faisait les exercices en bordeaux, gris, noir et blanc.
Et alors là aussi, tu étais exotique?
J'étais totalement à côté. Et mes professeurs, ils ne savaient pas quoi faire pour me remettre dans le bain.
Donc, dans le bain de couleurs.
Dans le bain de couleurs normalisé. Je ne connaissais pas la sobriété, je ne connaissais pas... c'était toujours exubérant. Enfin, j'ai dû vraiment beaucoup me discipliner pour arriver à aimer la beauté de la simplicité.
Est-ce que tu avais une exubérance aussi dans le trait et pas seulement dans la couleur ou seulement dans la couleur?
Seulement dans la couleur.
Donc le trait pouvait rester...
Le trait, je pouvais me discipliner pour le trait, mais pas pour la couleur.
Alors, après ça, quand tu sors de ton école, qu'est-ce que tu fais? Comment ça se passe?
Alors, c'était très facile. Il y avait beaucoup de travail à l'époque pour les graphistes. Donc, j'ai tout de suite été engagée dans une agence de publicité, une petite agence.
À Lausanne?
À Lausanne. Et j'y suis restée 3 ans.
Et là, tu faisais quoi?
Tout ce qui est dessin, recherche de logotype...
Tu travaillais surtout pour des entreprises, pour des privés?
Pour des entreprises, donc l'horlogerie. Il y avait Longines qui était un grand client de mon patron. Richard, c'était une petite marque de bijouterie. Donc il y avait aussi ce qui était les Lettres Réunies à l'époque, mais là, à Lausanne, c'était différent. Donc, on faisait beaucoup de produits comme ça, alimentaires, horlogerie.
Alors, est-ce que c'était, par exemple, pour des affiches? Est-ce que c'était pour...
Des affiches, des brochures. Ma première... moi, j'étais nouvelle dans cette petite agence. Donc, la première chose je me suis marquée, donc j'ai fait ma place, c'était une campagne pour Longines. C'était une réédition de vieilles montres qui s'appelait Les Sentimentales. Et j'avais trouvé des illustrations, j'avais fait la campagne, j'avais fait le projet et il avait été accepté. Donc là, j'ai gradé dans la boîte.
Qu'est-ce qu'on écoute maintenant? On écoute de nouveau un peu de musique.
Nous allons écouter la musique des Antilles.
Avec plaisir. C'est du soleil, ça?
C'est du soleil, oui. Thank you.
Vous êtes sur Radio Cité Genève 92.2 dans l'œil du commissaire priseur avec Elena Zanelli, conseiller en communication, création, exécution graphique. Alors Elena, on vient de voir que tu es donc dans une agence à Lausanne après avoir fait une école qui était la préfiguration de ce qui est aujourd'hui l'ECAL. Et puis en 81, qu'est-ce que tu fais là ?
Alors juste un petit peu avant 81, je change de travail, d'agence. Et je vais à Bâle, dans une agence bâloise, pour faire de la création d'emballage. Parce que mon mari, donc mon futur mari de l'époque, était...
De l'époque.
Oui, ben voilà, je me suis mariée en 80 et il habitait Bâle. Donc, je suis allée travailler à Bâle.
Ah, le dur métier donc, des femmes qui suivent leur mari.
Bâle, ou qui m'avait posé tellement de problèmes avec la couleur de l'école de Bâle, mais j'y suis allée et j'ai travaillé dans une agence là-bas.
Donc, et alors, ça consiste en quoi les emballages, raconte-nous?
Je devais faire de la création d'emballages, donc l'habillage d'emballages de parfums, d'alimentaires pour l'Allemagne. Et donc j'ai beaucoup appris, parce que c'était tridimensionnel et voilà.
Et on n'avait pas encore les ordinateurs, on les avait déjà?
Pas d'ordinateur, c'était tout en collant des copies, de transparents, de dessins, voilà, c'était du travail manuel.
Et en 81, je répète, là, tu décides de créer ta propre agence.
Voilà, donc à Genève.
À Genève. Alors, comment ça s'est passé tout ça? Le mari est revenu à Genève aussi?
Le mari est genevois, et donc il est revenu à Genève. Il est architecte, donc il s'est installé à Genève. Et moi, j'ai plié bagages, je l'ai suivi. Et je me suis dit, je ne vais pas recommencer à chercher du travail. Je me mets à mon compte et je me lance.
Alors, quand tu te lances, pas facile de lancer une affaire parce qu'il faut faire la création, mais il faut faire tout le reste aussi. Il y a toute la comptabilité, la publicité pour se faire connaître. Comment ça se passe tout ça?
Alors, je connaissais personne à Genève. Donc, c'était un bon moyen de se lancer. Comme d'habitude, quand j'arrive dans un pays, je ne connais personne. Donc, j'ai commencé à aller visiter avec mon portfolio des tas d'entreprises. En fait, j'ai ouvert le bottin et j'ai choisi mes clients. Je me suis dit, je veux choisir ces clients et je vais les voir.
D'accord. Donc, au fond, tu n'as pas attendu que le téléphone sonne ou qu'on t'appelle.
Non.
Tu as décidé de solliciter toi-même. Alors, tu avais préparé, j'imagine, des travaux pour leur montrer ce que tu pouvais faire.
Voilà, j'avais un beau portfolio des agences dans lesquelles j'avais travaillé. Donc, je suis partie avec mon portfolio, j'ai appelé. Les gens étaient très accueillants, très ouverts. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé mes premiers mandats à Genève.
Donc, tu es toute seule à la barre, si je puis dire, dans
voilà.
Ton agence.
Oui.
C'est très difficile, ça, quand même, parce qu'encore une fois, il faut faire la création, il faut faire les démarches commerciales pour avoir des clients. Ensuite, il faut assurer la comptabilité, les factures. Enfin, c'est assez... Comment est-ce que tu négocies tout ça? Comment est-ce que tu arrives à faire tout ça en même temps?
Mais c'est venu très naturellement, petit à petit. J'avais
une croissance douce, est-ce que
une
c'est
croissance
ça
douce. Oui. Il y avait, comme je dis, à l'époque, il y avait beaucoup de travail. Donc, ce n'était pas un problème de trouver des mandats. Et puis, les graphistes étaient encore seuls maîtres à bord, ce qui n'est plus le cas maintenant, puisque tout le monde fait un peu...
Tout le monde fait son graphiste.
Tout le monde fait son...
son petit graphiste.
Seul service. Donc, à l'époque, il y avait quand même beaucoup de beaux mandats et de clients. Donc, c'était... voilà.
Une période heureuse.
Une période heureuse.
C'est bien. Alors maintenant, je voudrais savoir encore beaucoup d'autres choses. Est-ce que c'est l'époque où tu commences à regarder autour de toi et à te lancer dans les associations?
Alors, c'est venu au bout de 10 ans. J'étais seule à mon compte. Ce qui était difficile, c'était de concilier. Alors, j'ai fait 2 enfants entre-temps.
Ça, c'est bien.
Voilà.
Combien d'enfants as-tu?
Et ça commençait à devenir difficile de concilier les enfants, le travail.
Combien d'enfants as-tu, Elena?
2 filles.
2 filles.
Et là, je me suis dit, il me faut des conseils. Mais comme je suis seule, je ne sais pas où me tourner. Et un jour, j'ai vu dans la tribune une annonce pour une association, Business and Professional Women, qui est une association de femmes professionnelles qui travaillent et qui fêtaient leurs 40 ans. Et j'ai dit là, je veux y aller. J'ai besoin des conseils de gens comme moi qui sont des femmes et qui sont à leur
compte.
Une
sorte de réseautage, au fond.
Voilà. C'est le premier réseautage que j'ai fait vraiment professionnellement.
Donc, le besoin se faisait sentir de savoir comment à la fois concilier une vie familiale et une vie professionnelle pour
voilà,
une femme.
C'était ça le débat. C'était ça le débat.
Ouais. Voilà. Et donc, tu allais à la rencontre de ces femmes, mais un jour, tu es même devenue leur présidente.
Alors, très vite après.
Elena,
je me suis...
tu m'es dit quelque part et rapidement.
J'étais enthousiaste par ces femmes, par leur vivacité, leur diversité. On pouvait parler de tout. Et puis, elles étaient, comme moi, des femmes qui travaillent, qui essayent de concilier leur vie, etc. Donc, on m'a demandé de venir au comité pour m'occuper de la communication.
Ça, c'était un peu normal, parce que c'était ton métier. Voilà.
Donc là, et là, quand même, ce qui était important pour moi, c'est que j'ai commencé à écrire des articles, ce qui ne m'était jamais arrivé. Et très peu après, on m'a demandé d'être présidente. Et j'ai dit oui.
Alors ça, présidente d'un cercle de femmes, c'est une lourde tâche aussi, parce qu'il faut quand même assurer les recrutements, les parrainages, les activités. Il faut donner une direction. Oui. Ça a dû te prendre du temps, j'imagine.
C'était très prenant. J'ai quand même fait ça 5 ans, présidente du BPV Genève, du club de Genève. J'ai beaucoup appris et en fait, j'ai développé beaucoup de compétences dont je ne soupçonnais pas l'existence.
Alors, quelles compétences, par exemple, ça t'a permis de développer?
Ouais, tout ce que tu as mentionné. Gérer un groupe bénévole qui vient bénévolement. Faire des contacts dans la ville, dans la société, pour avoir des conférenciers, des conférencières. Gérer le recrutement, faire connaître le BPV, écrire des articles, faire de la relation publique. C'était beaucoup, beaucoup d'apprentissage et j'ai aimé ça. Faire des discours, voilà, j'ai adoré.
Et est-ce que cette activité bénévole t'a servi dans ton métier ?
Bien sûr, j'ai fait beaucoup de contacts, vu que c'était des femmes, beaucoup avaient des entreprises. Certaines étaient dans des entreprises, donc j'ai connu le monde professionnel un peu plus large, par un autre point de vue.
On va écouter un peu de musique à nouveau maintenant.
Radio Cité Genève, l'œil du commissaire priseur, Viviane Juteau.
Vous êtes sur Radio Cité Genève 92.2 dans l'œil du commissaire priseur avec Elena Zanelli, conseillère en communication, création et exécution graphique. Alors Elena, on vient de voir que tu as pris aussi la tête de femmes professionnelles, Business and Professional Women. Et puis on a vu aussi que tu es à la tête de ta propre agence. Et là, tu développes l'imaginaire symbolique dans la publicité. Raconte-nous ça, parce que c'est très important. C'est l'un de tes grands dadas, en fait.
C'est mon grand dada. Je ne soupçonnais pas ce dada, mais il y a beaucoup de choses qui sont découvertes comme ça au long de la vie. Pendant que je faisais l'école des beaux-arts, l'école des graphistes, nous avons assisté à une conférence sur le marketing. Ça, c'était un mot que je ne connaissais pas. Ça m'intéressait
beaucoup.
Il a
un double sens, d'ailleurs. Ce que je trouve assez agaçant, il a à la fois le sens de commercialisation d'un produit et puis le sens de la promotion du produit et on emploie alternativement l'un et l'autre.
Voilà. Mais ce qui m'intéressait dans le marketing, c'est toute la partie psychologique, toute la partie pourquoi ce produit ou cette marque est aimée, pourquoi ça marche et pas une autre. Enfin, il y a tout un monde de culture, de nouveau, d'environnement culturel à une marque. Et ça m'intéressait beaucoup. Et de fil en aiguille, j'ai assisté à des conférences là-dessus. Et un jour, j'ai rencontré M. Ruffet, qui donnait des cours de marketing à la Savy. Donc ça, c'est une école professionnelle suisse. Et j'ai dit, alors ça, je veux faire. Je veux faire du marketing. J'ai fait cette formation. Et avec moi, ma formation de psychologie, de philosophie française, et toute la culture, le bagage culturel que j'avais, c'était tout naturel, toutes ces symboliques, ces couleurs, tout ce monde imaginaire dans la publicité m'intéressait énormément et avait des résonances en moi.
Alors, tu as cherché à formaliser tout ça, puisque tu as cherché les symboliques, par exemple, de la religion ou de la vieillesse. Je trouve que c'est quelque chose de très intéressant. Je me souviens, par exemple, d'une conférence que tu avais faite où tu avais recherché toutes les images publicitaires mettant en scène des personnages religieux ou des situations religieuses, de plusieurs religions d'ailleurs, mais particulièrement catholiques.
Oui, bien sûr. C'est celle que je connais, en fait, judéo-chrétien, c'est celle que je connais le mieux. Ce qui est intéressant de voir, c'est que toutes nos angoisses d'être humain ou nos bonheurs d'être humain, nos recherches du Graal ont des répercussions sur tout. C'est-à-dire la religion reprend, nous promet l'immortalité parce qu'on la recherche, nous promet l'amour, nous promet, etc. Et la publicité fait pareil. Et toujours par des symboles. Si je prends un domaine très connu, le temps, puisqu'en Suisse, on fabrique du temps, ou plutôt on l'arrête, le temps, avec des montres.
Enfin, on le mesure.
On le mesure, mais toutes les images sur les montres parlent du temps et de l'éternel, en fait, de l'immortalité, de l'éternel, de cette angoisse du temps qui passe et on veut le maîtriser. Donc, tout ce monde-là, c'est très vaste et tous les êtres humains ont la même préoccupation.
Alors, pourquoi la religion ?
Parce que la religion utilise énormément de symboles qui sont restés ancrés en nous et on ne pourrait pas les, c'est dans notre inconscient collectif, on ne pourrait pas les connaître rationnellement, mais ils sont là.
C'est vrai qu'une célèbre marque de pull a utilisé des religieuses, c'est vrai qu'une marque de fromage a utilisé des moines, etc. etc.
Oui. Il y a toujours une référence à ce que nous connaissons culturellement, même très loin, sans l'expliquer. On répond à ça parce que c'est de nouveau quelque chose qui est en nous, dans notre éducation millénaire, voilà.
Et la vieillesse ? Alors la vieillesse a été une autre de tes recherches.
Oui, toutes les publicités qui parlent en fait à la vieillesse utilisent des artifices pour rassurer les
personnes âgées.
Mais bien sûr, parce que c'est
pour
de nouveau...
Pour rassurer les cibles.
C'est de nouveau une quête de la vieillesse.
La jeunesse éternelle.
La jeunesse éternelle, les élixirs de vie, enfin tout ça, ça parle à la personne qui vieillit.
Alors pourquoi est-ce que tu as eu le besoin de formaliser tout ça ? Parce qu'au fond, tu as eu des missions successives de graphiste ou de publicitaire. Tu y as répondu, mais pourquoi est-ce que tu les as au fond réunis dans une sorte de conception, de formalisation ?
Alors, ce qui me touche dans toute cette recherche, c'est que lorsque j'arrivais dans un pays, dans une nouvelle culture, il fallait que je décode très rapidement la culture. Qu'est-ce que ça veut dire, la langue ? Je ne connaissais pas la langue la plupart du temps. Je devais observer les gens, qu'est-ce que ça veut dire ? Les coutumes, les costumes, les gestes. Donc, tout ce décodage... C'est un peu une fonction que j'ai développé, une compétence, et que j'exerce aussi dans mon métier. Donc je décode une entreprise, quand je rentre dans une entreprise, je rentre dans une culture et je décode. J'essaie de comprendre pourquoi les choses se font comme ça dans cette entreprise, pourquoi... Et il y a toute une culture d'entreprise qui est fascinante, comme quand on arrive dans un pays. Donc c'est un peu, ça vient tout seul, c'est naturel chez moi.
C'est vrai, une entreprise est un pays.
Une entreprise est un pays.
On va écouter à nouveau de la musique, si tu veux bien.
J'aime Paris au mois de mai, quand les bourgeons renaissent, qu'une nouvelle jeunesse s'empare de la vieille cité qui se met à rayonner.
J'aime Paris au mois de mai, quand l'hiver le délaisse, que le soleil caresse ses vieux toits à peine éveillés.
Le vent qui passe,
il me plaît à me promener par les rues qui se faufilent à travers toute la ville. J'aime Paris au mois de mai.
J'aime Paris au mois de mai. Un sommeil très léger, coquette se refont une beauté.
J'aime Paris au mois de mai, quand soudain tout s'anime par un monde anonyme, heureux de voir le soleil briller. Me plaît me promener dans les rues qui fourmillent en souriant aux filles. J'aime, oui j'aime Paris au mois de mai.
Vous êtes sur Radio Cité Genève 92.2 dans l'œil du commissaire priseur avec Elena Zanelli, conseil en communication, création, exécution graphique. Elena aux multiples casquettes puisque tu éprouves le besoin de créer une banque d'images photographiques par la suite. Raconte-nous ça.
Voilà, alors toute cette recherche, cette compréhension des cultures passe par l'image. Puisque je ne comprenais pas la langue, l'image était mon moyen d'information principal. Et dans la publicité, l'image passe avant le texte. Donc, on est toujours dans l'image. Et lorsque donc, Internet est arrivé, s'est développé, la publicité changeait aussi de support. Et avec une amie, Jacqueline Régnier, qui est dans l'informatique et la sécurité informatique, on voulait expérimenter la vente sur Internet. Et puis on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut vendre ? On n'était ni l'une ni l'autre dans la vente d'objets. On pensait à des chaussettes, mais ça ne nous disait rien.
Et puis, c'était assez éloigné du graphisme et de
c'était
l'art.
C'était totalement différent. Et je lui ai dit, mais on va vendre des images. On va promouvoir des photographes et représenter leur travail et vendre les images de nos membres photographes.
Comment as-tu repéré les bons photographes ? Enfin, comment as-tu été faire cette quête et cette recherche ?
J'ai l'œil.
Je sais.
J'ai l'œil. Donc...
Mais nos auditeurs ne le savent pas forcément et c'est pour ça que j'aimerais que tu l'expliques.
J'ai mis des annonces. J'ai recherché des photographes qui déposaient leur portfolio. Et je voyais très vite, avec mon expérience dans la publicité, avec beaucoup de photographes publicitaires, j'ai commencé à connaître un peu les bons photographes. Parce que dans mon idée, c'était quand même des objets publicitaires ou des images qui servent à la publicité. Des images utilitaires, comme je les appelle. Et petit à petit, on s'est fait une jolie palette de photographes qui aimaient bien l'idée de cette petite banque d'images régionale, pas ces grandes banques d'images.
Beaucoup de paysages, de fleurs, d'animaux.
Oui, il y a beaucoup de... Mais maintenant, on commence à avoir beaucoup de personnages, mais ça, c'est très difficile parce qu'il y a beaucoup de problèmes avec les droits des gens, etc. Mais il y a des photographes qui se sont spécialisés et qui nous mettent des images de gens, de situations, de Genève, de pays.
Alors, comment est-ce qu'on arrive à commercialiser ces images sur le net? Est-ce que c'est facile?
Non, ce n'est pas facile du tout parce qu'on est une toute petite banque d'images. Mais notre point clé, c'est que comme on connaît tous nos photographes et toutes nos images et que je suis une conseillère en communication, je conseille parce que ce n'est pas difficile d'acheter une image, mais de la choisir. Donc, il faut savoir...
Pourquoi est-ce que c'est si difficile de choisir une image?
Parce
qu'il y en a beaucoup?
Il y en a énormément. Et si on n'a pas une idée fixe, une idée précise de ce qu'on veut dire... On ne la trouvera pas.
On est d'accord que c'est toujours... Donc, c'est bien pour la publicité. Ce sont des images que l'on va utiliser pour la publicité, donc la promotion d'un service ou d'un produit. C'est bien ça?
Oui, mais ça peut aussi être pour promouvoir une région, pour promouvoir un artiste, pour mettre sur une carte. Ça peut être des choses très personnelles ou associatives pour montrer un sujet. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire? Et là, je leur propose une sélection d'images.
Donc là, tu les accompagnes?
Je les accompagne, oui.
D'accord. Au fond, tu cherches à montrer des talents, à les promouvoir. C'est ce que tu as fait toute ta vie.
Voilà, promouvoir les photos et accompagner les clients.
Je dois dire que c'est un autre aspect, puisque si tu veux, quand tu crées toi-même, tu crées pour toi-même, tu crées pour tes clients, certes, mais c'est ton talent à toi. Et à partir d'un certain développement, tu as cherché à promouvoir les talents des autres. Donc, on vient de voir pour les photographes. Et puis, tu as aussi, je dirais, différentes cordes à ton arc, puisque tu as décidé de montrer des talents littéraires. Alors, parle-nous de cette période-là et parle-nous de cette expérience formidable.
Alors là, j'ai basculé dans le littéraire.
Tu as des vies successives, Elena.
J'ai des vies successives. Ouais. Et puis, quand j'ai eu cette expérience de vente, un site internet où on vend, on montre des images, je me suis dit... comme hobby, parce que j'ai des hobbies, j'écrivais des petites anecdotes de ma vie rocambolesque dans tous ces pays. Et ça n'avait ni queue ni tête. En fait, ça passait de l'Équateur à Curaçao, à Saint-Domingue.
Les villes où tu as... Enfin, les endroits où tu as vécu enfant.
Les endroits où j'avais vécu. Mmh. Et je ne voyais pas une logique dans cette continuité que j'avais vécue. Et je me suis dit, il faut que je trouve un outil, ou que je l'invente, pour écrire dans le désordre, comme un feuilleton.
Qu'est-ce que c'est qu'écrire dans le désordre?
Écrire dans le désordre, c'est passer d'une époque de sa vie à une autre, d'un lieu à l'autre, d'un âge à l'autre, sans aucune logique. Et de pouvoir
remettre... Juste avec l'envie de...
L'envie de raconter une histoire, des petites histoires. Mais en fait, c'est toute l'histoire qui se tient, mais on ne le voit pas tout de suite. Donc on pourrait écrire...
C'est comme un puzzle que l'on reconstitue?
C'est comme des éclats, et on les met ensemble, et ça devient un cristal, mais c'est des éclats de cristal.
On va écouter un peu de musique, si tu veux bien, et on va revenir à cette formidable aventure, nouvelle aventure d'Elena Zanelli.
Bye.
Radio Cité Genève, Viviane Juteau, l'œil du commissaire-priseur.
Vous êtes sur Radio Cité Genève 92.2 dans l'œil du commissaire-priseur avec Elena Zanelli, conseil en communication, création et exécution graphique. Elena, tu es dans une période de ta vie où tu as envie, après avoir fait la preuve de tes propres talents, de montrer et promouvoir ceux des autres. Nous venons de voir une nouvelle aventure, une nouvelle casquette d'Elena, Web Story. Explique-nous ça.
Alors, ma vie a complètement changé avec Web Story, donc ces deux dernières années.
2012, hein, c'est la création.
2012, je me suis dit, j'aimerais promouvoir ce site, parce que c'est un site Web Story, une plateforme d'écriture. J'aimerais le lancer, et comme je ne suis pas du tout dans ce milieu, il faut que je lance au Salon du Livre. Donc j'ai pris un stand au Salon du Livre, le plus petit stand, dans les découvertes, le secteur découvertes, et je me suis lancée avec l'ordinateur pour montrer aux gens qu'ils pouvaient écrire et publier directement sur ce site leurs histoires.
Comment sont venus les gens jusqu'à toi ?
J'avais un grand panier de Sugus. Les couleurs Web Story.
Et quelles sont les couleurs Web Story ?
Donc orange et vert.
Alors là, on est revenu à tes fondamentaux oui. D'avant le formatage de BAL.
Exactement. Alors, bon, c'est entouré de noir quand même. Et les gens étaient intrigués parce que le Salon du Livre, c'était pas du numérique, c'était surtout des livres
papier.
Mais ce qui m'intéressait, c'était de promouvoir l'écrit. Peu importe si c'est sur virtuel ou papier, voilà. Ce qui est important, c'est d'écrire.
Donc, des écrivains en herbe ou confirmés sont venus vers toi, à ta demande.
Oui, toutes sortes de gens sont venus par curiosité pour voir ce que c'était. Et puis, les écrivains se méfiaient un peu parce qu'ils ont l'impression que c'est
qu'on
une concurrence.
On va leur voler leur
mais
bonne feuille.
Ça leur permet aussi d'écrire, d'expérimenter un nouveau support, de se faire connaître différemment, de voir le nombre de visiteurs qu'il y a sur leur texte. Donc ça, c'est très intéressant et motivant pour un écrivain. Ça permettait aussi à beaucoup de gens qui écrivent, mais qui ne sont pas écrivains, qui n'ont pas été publiés, qui n'ont pas le volume ou qui n'ont jamais publié quelque chose.
Beaucoup de gens rédigent leur journal intime.
Ça aussi, il y a beaucoup d'histoires fabuleuses qui dorment dans les tiroirs. Alors, quand j'avais créé la banque d'images, j'avais dit « Donnez-nous vos photos qui dorment dans les tiroirs ». Et là, je leur disais « Donnez-nous vos textes qui dorment dans le tiroir ».
Tu es un découvreur de talent, tu es un accoucheur, en quelque sorte,
oui,
de talent.
J'aime promouvoir les talents des gens, c'est vrai. Et c'est pour ça qu'il y a eu le prix Zanelli Création, ça c'était une autre aventure.
Il faut nous parler de ce prix, justement. Tu as créé un prix à l'ECAL, je crois, il y a 18 ans, en 96.
Voilà, à peu près.
Et alors ce prix, qu'est-ce que c'est exactement? Le prix Elena Zanelli.
Ce prix, lorsque j'étais à l'école d'avant, quand je faisais mes études, et que j'avais beaucoup de peine avec les couleurs, évidemment, de la Suisse.
Nous avons vu tout à l'heure, au début de l'émission, que tu étais née dans des pays, enfin que tu avais vécu dans des pays très colorés, très ensoleillés, et que les couleurs assourdies de la Suisse...
Très décalées.
C'était pas toi.
Et un jour, à la remise des prix de fin d'année... J'ai eu la surprise d'entendre mon nom pour recevoir le prix de la sérigraphie, qui est une manière d'imprimer très ancienne. Et puis, j'étais tellement bouleversée, j'étais tellement émue de recevoir un prix pour reconnaître, comme reconnaissance, c'était magnifique. En fait, c'était une reconnaissance aussi de tout l'effort et le talent que j'avais mis en place pour arriver à m'adapter et à sortir quelque chose de présentable, d'acceptable. J'avais fait une belle œuvre de sérigraphie et je me suis dit, un jour, j'aimerais bien faire expérimenter cette émotion à des étudiants.
Et donc, tu as créé un prix.
Voilà. Et c'est le prix de la motivation, en fait. C'est l'élève qui a le plus fait d'efforts et qui s'est dépassé lui-même.
C'est dans la section graphisme, je crois, bien sûr.
Oui,
c'est ton vrai métier.
Voilà, c'est toujours le graphisme.
Et donc, c'est l'élève qui s'est dépassé, c'est l'élève qui a fait le plus de progrès pendant son année.
Par rapport à lui-même. Pour moi, ce qui est intéressant, c'est de se mesurer par rapport à soi-même, pas aux autres.
D'accord. Donc, ça n'est pas le meilleur de sa classe.
Non.
Qui a fait le plus de progrès.
Il ne s'attend jamais à recevoir un prix. Et pourtant, ce prix va le propulser.
Ça va le propulser. c'est le but. Donc,
c'est le but,
c'est de faire sortir le papillon de la chrysalide,
voilà,
au fond.
Exactement.
Et c'est toujours promouvoir les talents des autres, Elena.
Voilà, c'est ça.
C'est toujours ta vision et ton envie.
C'est ma vision et c'est ce qui me motive, c'est de voir le plaisir que les gens ont à être connus, de progresser, de dire « Ah, mais j'ai un talent, je vais le continuer ».
Je dirais que toutes ces actions et ces activités, tu les mènes quand même parallèlement à ton activité principale de graphiste. Tu m'as dit tout à l'heure qu'elle muse m'a piqué.
Alors, c'était le... Dès que j'étais au Salon du Livre, j'ai compris qu'il fallait faire un concours d'écriture pour que les gens, justement, se mesurent à eux-mêmes. Et le premier concours 2012 s'appelait « Quelle muse m'a piqué ce matin ?» Et c'était aussi parce que l'espace de la muse avec Geneviève Morand m'avait aidée, était le berceau un peu du projet. J'avais pu en parler pour la première fois.
La muse, c'est donc un groupe de réseautage animé par Geneviève Morand, qui est notre amie à toutes les deux et une amie de Radio-Cité qui vient souvent s'exprimer, qui a fait d'ailleurs des séries d'émissions il y a quelques années.
Exactement. Donc en parlant de ce concours, on lui a donné ce titre pour piquer au vif un peu les gens et dire « mais qu'est-ce qui m'a pris d'écrire ? Qu'est-ce qui m'a pris de lancer ça ?»
Et là, tu as eu beaucoup de réponses.
J'ai eu beaucoup de réponses. Ça a commencé à les textes viennent régulièrement. Et je me suis dit « chaque année, il faut faire un concours » et c'est ce qu'on continue à faire.
Et puis maintenant, quoi d'autre dans ta besace ?
Alors, la besace, je me sens toujours poussée dans des défis en fait, qui me correspondent très bien et que je suis volontiers.
Mais que tu te crées toute seule, au fond. Que tu inventes.
Je crois que je les attire. je n'anticipe pas tout. Et lors du deuxième concours, j'aurais dû faire marche arrière. Ça, c'était un titre très joli qui a donné naissance à beaucoup d'histoires très rocambolesques. Nous avions deux concours et puis... En discutant avec les membres du jury, les éditeurs qui étaient dans ce jury, on s'est dit, faut faire un livre avec les histoires du concours 2013. Et finalement, je l'ai fait, ce livre, mais je n'ai pas été aidée par les éditeurs, mais par une fondation, la fondation Engelbertz, qui promouvait les arts, en fait. Et ce livre, je me suis dit, il faut publier les 8 lauréats des deux concours et faire une compilation de ses meilleures histoires.
Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'au départ, c'était la littérature numérique.
Oui.
Et puis, la littérature numérique se redéploie en papier.
Je passe du virtuel au papier, contrairement à...
D'habitude, on fait le contraire.
Mais ce livre est vraiment une... Bon, ça a été une aventure parce que je ne suis pas du tout éditrice. Et c'est une belle reconnaissance, de nouveau, pour les écrivains qui ont écrit, qui ont gagné un prix et maintenant qui sont sur papier, donc... qui sentent une sorte de reconnaissance à un autre niveau.
C'est tactile, le papier. Et puis le papier du livre, ça a une odeur, ça a une présence. Un livre, c'est une présence.
Oui. C'est une présence. Il y a une photo, évidemment, d'un de nos photographes sur la couverture. Le jury aussi est mentionné à l'intérieur. Donc, c'est un livre des meilleures histoires.
Alors, qui était ton jury ?
Alors, il y a eu plusieurs jurys. Chaque année, il y a un autre jury.
D'accord.
Parce qu'il faut que ce soit très hétéroclite, très diversifié. Et des gens peut-être qui n'ont rien à voir avec l'écriture, hein, ça peut être...
Qu'est-ce qui est privilégié ? C'est la...
L'originalité.
L'originalité.
Toujours l'originalité.
L'originalité
d'un récit.
Du récit.
Évidemment, le style.
La forme est aussi importante, pas seulement le fond, j'imagine.
Mais sur le site, nous ne corrigeons pas les fautes d'orthographe, par exemple, parce que pour moi, ce n'est pas important.
D'accord.
C'est important dans un livre de les corriger. Mais il ne faut pas que les gens se bloquent à cause de ça. Moi, je préfère qu'ils écrivent.
Mais il y a des correcteurs sur les...
Oui, alors ça, c'est leur problème parce que c'est eux qui publient, ce n'est pas moi.
D'accord.
Donc, ils publient. Et pour le livre, par contre, on a vraiment fait un effort d'édition avec...
Alors, où est-ce qu'on trouve ce livre ?
Alors, en vente chez Webstory, évidemment, et auprès des auteurs qui ont gagné...
Alors, Webstory, donc, sur Internet ?
Sur Internet.
Quel est le nom du site ?
Webstory.ch.
Webstory.ch. Donc,
vous mettez
l'envie
contact,
vous en prend de lire.
Il y a tout ce qu'il faut dans les actualités, vous voyez, le livre. Le livre est arrivé.
Le livre est arrivé. Donc, ça, c'est ton dernier bébé.
Ça, c'est le dernier bébé. Je pense que ce serait bien, tous les deux ans, peut-être, de faire un livre.
Tous les deux ans.
pour deux concours, oui, parce qu'il faut de la matière, hein, il faut beaucoup d'histoires pour faire un livre un peu épais, un peu intéressant.
Est-ce qu'il y a toujours des auteurs qui surgissent en quelque sorte, inconnus, et puis qui tout à coup se révèlent grâce à cette aventure, grâce à Web Story?
Il y a beaucoup de gens qui se révèlent et qui sont... on a des gens de... Donc les participants au concours viennent de Bordeaux, Paris, Montpellier, La Chaux-de-Fonds, Valais. Il y a tous les pays un
donc
peu
France
francophones.
Et Suisse essentiellement.
Voilà.
Il y a des Belges aussi?
Très peu. Mais ça va venir.
Elena, merci d'être venue
merci
nous
à toi,
expliquer
Viviane.
Tout ce que tu as fait. Je rappelle que tu es une femme de défi, un grand créateur qui aime aussi promouvoir de multiples talents, les talents des autres, des créateurs autres que le tien. C'est une grande générosité, ce sont de très belles aventures à chaque fois. On t'aime beaucoup pour ça et j'avais envie aujourd'hui de te recevoir pour que tu puisses expliquer tout cela, tes multiples casquettes, mais tes multiples passions à nos auditeurs. Merci d'avoir été là.
Merci à toi, Viviane.
Et puis on remercie aussi Jackie Elzesser et Alexandre Jean-Renaud pour nous aider à monter cette émission et à la diffuser. À bientôt.